Désolé pour ce léger retard. Jean-Claude Carrière et Nahal Tajedo sont en route. Ils vont nous rejoindre dans une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes au plus tard. Ils sont pris dans un rendez-vous et ils arrivent donc dans une quinzaine de minutes. Merci d'être parmi nous ce soir à cette rencontre des Jeux de Lima, qui, dans la foulée de ce qu'on a organisé précédemment au cours de nombreuses séances sur le soufisme, sur les spiritualités, va nous permettre d'écouter et de suivre. Ah, voilà. Il y a Jean-Claude qui arrive. Oui, alors je vous ai excusé auprès de notre public. Voilà, donc je disais que ça s'inscrit un peu dans l'esprit qu'on développe ici dans le cadre des Jeux de Lima, à savoir ce croisement entre les idées, entre des réflexions multiples et complexes. Et donc, j'ai l'extrême plaisir de recevoir ce soir Nahal Tajaddoud et Jean-Claude Carrière, ainsi que Khaled Romo, qui vont donc nous accompagner au cours de cette séance pour écouter, pour suivre donc un conte métaphysique majeur dans l'histoire du soufisme musulman. Et donc, je dirais qu'au départ, il y a toujours le récit. Et tout part du récit et converge vers le récit, celui de récit de l'amour, de la mort, de la vie. Et les musulmans, dans des périodes fastes de leur histoire, savaient raconter des histoires. L'héritage narrationnel, je dirais, dans ce domaine est riche et alimente toujours et encore notre imaginaire. Bien que la technologie sous ses formes les plus poussées, les plus violentes, étouffe de jour en jour ce qu'on appelle l'esprit de la hikaya, de l'histoire, du récit. Mais nos livres, notre patrimoine renferme encore des trésors insoupçonnés pour les passionnés du conte et des histoires. Le colloque des oiseaux, ou ce qu'on appelle la conférence des oiseaux, est l'un des textes phares de l'histoire du soufisme musulman. On le doit à Farid Din Al-Attar, connu sous le nom de Attar, tout simplement l'apothicaire. Il était en même temps médecin, à sa manière. Et je dirais rapidement, hein, pour parler de son parcours, de sa vie, qu'il est né à Nissapour. La date n'est pas tout à fait exacte, hein, on le donne. En 1119, décédé en 1190. Il passa les 13 premières années de sa vie dans sa ville natale, Nissapour, puis il quitte cette ville pour entreprendre un long périple qui le mena à la Mecque, Médine, Damas, l'Égypte, l'Inde et la Turquie. Et puis par la suite, il revient dans son village natal pour s'y installer et se consacrer pendant 39 ans à la collecte d'un imposant corpus mystique sous les invectives, les fatwas, ainsi que sous la menace d'un cheikh qui l'accusa d'hérésie, et il s'exile à La Mecque. Alors, dans son œuvre, qui compte plus d'une dizaine d'ouvrages, le colloque des oiseaux occupe une place à part. Il reste également dans le corpus soufi arabo-musulman une référence majeure. Il est à la fois un récit parabolique, un conte métaphysique et un miroir aux multiples facettes et aux nombreux reflets qui nous met face à nous-mêmes et à l'autre qui est en nous. Et cette thématique, évidemment, elle est centrale, elle occupe le conte de Attar. Et ce livre relève de ce que l'on pourrait appeler, à la suite d'Ibn Arabi et de Henri Corbin, de la force de l'imagination créatrice de la culture musulmane qui a donné par le passé lieu à de grands récits fondateurs, comme je l'ai dit, qui vont des mille et une nuits jusqu'à l'épître du pardon, Risalat al-Ghufran de Al-Ma'arri, en passant par Hayy ibn Iqdan et d'autres, évidemment, d'autres récits fondateurs. Et l'élan de ces récits, malheureusement, s'est épuisé avec l'épuisement des sociétés et des hommes qui les ont produits. Alors Jean-Claude Carrière et Nahal Tajadoud ont revivifié le souffle de ce récit et de cette allégorie de la rencontre entre l'âme et son vrai roi. Ils ont tiré une œuvre théâtrale, plutôt Jean-Claude Carrière, il a tiré une œuvre théâtrale mise en scène par Peter Brook à Avignon en 1979. Et, pardon, elle n'était pas née. Alors j'ai rectifié après. Donc longtemps épuisé, ce classique contemporain par lequel un trésor du patrimoine spirituel mondial retrouve son oralité première est enfin rendu à un large public. Donc ce soir, nous sommes contents d'avoir parmi nous ces trois intervenants de qualité. Et je voudrais quand même présenter Khaled Romou, qui est poète, chercheur, parolier de l'ensemble Wajd, animateur de forums sur les cultures et le savoir en terre d'islam. Et il est l'auteur d'un livre important, Le Coran déchiffré selon l'amour, qui est paru aux éditions Koutoubia, il y a 2009. Voilà. Donc, évidemment, avec nous, pour ponctuer cette soirée avec des intermèdes musicaux, Nabil Ghannouchi, qui va alterner le oud et le ney pour rendre l'âme à ce récit qui nous vient de très très loin, mais qui est toujours très vivant. Alors, je passe la parole d'abord à Jean-Claude Carrière pour donc nous entretenir, pour revenir sur la conférence des oiseaux. À vous, micro.
Oui, juste quelques mots pour vous dire comment nous sommes rentrés en contact, comment un groupe théâtral est rentré en contact avec ce texte. Il faut remonter aux années, au début des années 70, quand, avec Peter Brook, nous avons fondé au Bouffe du Nord le CICT, le groupe international de création théâtrale, et nous cherchions à élargir le répertoire du théâtre occidental, c'est-à-dire à aller ailleurs, à trouver des thèmes, des situations, voire des textes qui viendraient d'autres cultures. Ça a commencé avec Attar, comme vous l'avez dit, ça se poursuivra avec le Mahabharata, l'Indien, un peu plus tard. Nous avons donc, vers 73 ou 14, pris connaissance du texte dans la traduction du 19e siècle d'un orientaliste français qui s'appelait Garcin du Tassy, qui est une traduction dont, à l'époque, je ne connaissais pas encore Nahal, nous n'avions pas encore de perçant dans notre groupe et nous ne pouvions pas vérifier l'exactitude de la traduction. Il y a quelques erreurs que, par la suite, nous avons rectifiées. Nous avons donc commencé à travailler étrangement, non pas du tout sur le texte, mais sur les mouvements du corps et de la voix que peuvent provoquer des oiseaux. C'est-à-dire, ça nous servait, ce texte nous a d'abord servi d'entraînement. Vous savez, tous les groupes d'acteurs font des exercices physiques, des exercices vocaux. Nous nous sommes d'abord servis de Attar. C'est l'histoire d'un groupe d'oiseaux qui part à la recherche du Simorgh, qui est le roi légendaire et mythique des oiseaux. Ils sont menés par un des oiseaux, qui est la fameuse Up, qui a connu Salomon et qui a vécu 1000 aventures. Donc, Peter et moi, nous demandions aux comédiens de prendre tel ou tel oiseau et sans dire le texte, sans aucune phrase prononcée, de jouer ce voyage. C'était des exercices qui n'étaient pas du tout destinés à un public, bien entendu. C'est exactement comme un athlète qui fait de la gymnastique pour se préparer à d'autres spectacles. Et c'était pour nous devenu un terrain assez familier pendant plusieurs années. Il n'était pas le seul. Il y avait d'autres œuvres et d'autres types d'exercices venus du monde entier. Au début 79, comme le Festival d'Avignon nous a proposé de présenter un spectacle, nous étions en janvier, au mois de juillet. Nous n'avions rien et Peter Brook m'a dit « Est-ce que tu te sens capable d'écrire une pièce que nous pourrions répéter en même temps que tu l'écrirais ?» et présenté au festival, c'est-à-dire en 6 mois, grosso modo, 6 petits mois. Alors j'ai relevé le défi, alors là, évidemment, je me suis évidemment plongé en détail dans le texte, avec l'aide de persans, de spécialistes, et au fur et à mesure que j'écrivais, et que nous pouvions répéter avec les comédiens, cette fois avec des mots, ce que nous allions jouer, Peter Brook travaillait aux costumes, aux petits éléments de décor, et à l'ensemble du rythme. Nous sommes arrivés à Avignon, la pièce était écrite et mise en scène presque en même temps, oui. Mais il s'est passé une chose que je n'oublierai jamais, ça fait partie de la petite histoire du théâtre, c'est que nous jouions en plein air, dans le cloître des Carmes, un endroit très très beau, et Peter avait accepté de n'avoir que 2 représentations préparatoires avant la première. En général, il en prend toujours 10 ou 15, au moins. La première de ces représentations, il y a eu un orage tel que nous n'avons absolument pas pu jouer. Il y avait une première courte pièce africaine en première partie. Donc la conférence des oiseaux a été dévastée par l'orage, inondée. Tous les oiseaux sont rentrés avec leurs plumes mouillées. La deuxième représentation, nous n'avions oublié qu'une chose, c'était le 14 juillet. Et que donc, au moment même où nous commencions à jouer, des pétards ont éclaté et des orchestres dans tout Avignon. Il nous a été absolument impossible de faire quoi que ce soit. Alors, quand même, nous avons pu nous rendre compte que la pièce était un peu longue. C'est une des plus étonnantes expériences de à quoi sert la cohésion d'un groupe qui a l'habitude de travailler ensemble. Dans la nuit, entre le 14 juillet et le 15, où avait lieu la première, Nous ne sommes pas couchés avec les acteurs, nous avons travaillé à couper 2 scènes, à couper 20 minutes, à réécrire des intermèdes, à les retravailler et à les répéter. Dans cette nuit-là, il y avait des textes à apprendre. Donc voilà, nous avons dormi 2 ou 3 heures le matin et le soir, ça a été un triomphe total. Comme sinon, je ne vous ai pas raconté l'histoire. Si ça avait été un échec et si une troisième fois, nous n'aurions pas pu. La pièce a été jouée après dans le monde entier. Nous l'avons bien entendu ici ou là aménagée. Elle a été jouée dans différentes langues, en anglais, en allemand, en espagnol, un peu partout dans le monde. Nous-mêmes, nous avons fait une tournée qui est allée partout, y compris en Australie, tantôt en plein air, tantôt au bord de la mer, tantôt... C'est un thème symbolique, évidemment, d'un voyage qui n'est pas un voyage réel, mais qui comporte à chaque pas des détails incroyablement réalistes et proches de nous. La grande astuce de Attar, pourquoi utilise-t-il des oiseaux ? Parce qu'il ne peut pas utiliser des hommes. Il n'a pas entière liberté de parler comme il le fait d'oiseaux. Mais très habilement, à l'intérieur du texte, peu à peu, les becs deviennent des lèvres. les pattes deviennent des jambes. Et quand arrive le fameux épisode des sept vallées à la fin, le franchissement des sept vallées où ils perdent toute dépouille animale, ils deviennent réellement des êtres humains. Et quand ils arrivent devant le Simorgue, ils sont enfin eux-mêmes, puisque... Alors, un tout petit détail, Garcin de Tassy avait oublié dans sa traduction la phrase qui est peut-être la phrase centrale de tout le livre. Quand à la fin, ils arrivent devant le Simorgue, ce roi qu'ils ont, ils arrivent blessés, malheureux, exténués, mourants, en tout petit nombre. La seule chose qu'ils voient devant eux, c'est un miroir. Ils voient un miroir, et dans ce miroir, ils se voient eux-mêmes, et une voix leur dit « Vous êtes le Simorgue, et le Simorgue, c'est vous-même. Et seriez-vous 30 ou 40 oiseaux, vous verriez 30 ou 40 oiseaux dans le miroir. » Et c'est tout. Et il y a une phrase dans le poème que Garcin de Tassy n'avait pas traduite, et qui est le cœur même de l'histoire, « Vous avez fait un long voyage pour arriver à vous-même. » Et Rumi, vous savez que Rumi, considéré le grand Rumi, qui est plus jeune, une génération de moins que Attar, une génération et demie même, s'est considéré toujours comme l'élève et le disciple d'Attar. Il disait toujours « Attar a été mon maître ». Il est fort probable qu'il se soit rencontré à Nishapur lors de l'exil de Rumi encore enfant, et de son père quand ils ont dû quitter Balkh en Afghanistan sous la menace des invasions mongoles pour aller se réfugier à Konya en Turquie après un long exil. Donc ils se sont probablement rencontrés. Et Rumi, en grand poète, a repris cette phrase pour en faire « Vous avez fait un long voyage pour arriver aux voyageurs ». On voit la toute petite différence qui fait le très grand écrivain. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Évidemment, je pourrais vous en parler longuement, y compris de chaque épisode, et même nous pourrions en lire, si vous voulez, des extraits. Mais voilà comment nous y sommes arrivés. Et Albin Michel a eu la bonne idée de republier le texte de la pièce qui, je vous le dis, sert à la fois, encore maintenant, la pièce, de temps en temps, nous sert à des exercices. C'est-à-dire que pour de nouveaux acteurs qui se joignent à nous, qui n'ont pas l'expérience d'un travail en groupe, des exercices du corps, de la voix, il est très utile, c'est un texte très utile pour y rentrer, parce que l'acteur se sent protégé par le fait qu'il s'agit d'oiseaux et qu'il ne s'agit pas d'êtres humains. Je joue un oiseau, donc je ne mets pas en jeu moi-même, croit-il. Voilà.
C'est pas un oiseau hitchcockien. Mais là, je voudrais vous relancer l'impact du colloque des oiseaux sur la littérature mondiale. Et on sait que Borges a été aussi l'un des premiers à avoir révélé ce texte par une approche tout à fait originale. Qu'est-ce que vous en direz de ce prélèvement ?
Quand nous avons découvert, quand nous avons écrit la pièce et quand nous avons commencé à jouer, je crois que nous n'avions jamais mesuré jusque-là, comment dire, l'ouverture, l'envergure de la conférence des oiseaux, de ce texte. Car il peut non seulement se jouer, mais il peut aussi se lire. Il peut se lire à haute voix pour soi-même, on peut s'arrêter sur tel ou tel épisode, on peut choisir tel ou tel oiseau. Il n'y a pas, vous disiez, il n'y a pas d'oiseau hitchcockien, il y en a certains, parce qu'il y a aussi des oiseaux dangereux dedans. Il y a même une chauve-souris à un moment donné qui joue un rôle étrange, hein, qui est amoureuse du soleil et qui cherche à tout prix à le rejoindre. Donc il y a un moment donné où chacun, on peut prendre une page ou deux et y passer plusieurs années. Car le texte n'est pas dense, il est très fluide, très simple, il se lit avec une apparente simplicité. Dès qu'on commence à se dire « mais de quoi ça nous parle ? Qu'est-ce que ça réveille en nous ?» qui a été exactement la démarche de Borges, qui a vu un grand texte allégorique, bien entendu, comme tout texte itinérant qui décrit un voyage. Mais est-ce un voyage qui tourne en rond, puisqu'on revient à soi-même, au point de départ ? Au cours de ce voyage en rond, avons-nous appris quelque chose ? Avons-nous fait autre chose que voir un défilé de caractères et de personnages ? Est-ce que quelque chose s'est ouvert en nous ? Pour ça, il faut aller jusqu'aux sept vallées. Il faut avoir le courage qu'on tue les oiseaux, je dirais. Et déjà, Borges le disait. C'est un texte simple à lire est très complexe à appliquer. Car à partir du moment où on arrive dans les sept vallées, ces sept vallées sont très dangereuses et quelquefois très étonnantes à traverser. Avant d'arriver au point final, il faut traverser sept vallées. La première paraît très simple, c'est la vallée de la recherche, puis la vallée de la connaissance, puis la vallée de l'amour. Mais on arrive peu à peu à des vallées, la vallée de la stupeur, par exemple, où les contraires sont abolis, où on se trouve devant une situation presque qui était presque le rêve des surréalistes et d'André Breton, c'est-à-dire où le blanc et le noir cessent de se distinguer, où le haut et le bas, le lointain et le proche, où tout se confond. Il faut aussi traverser cette vallée, ce n'est pas facile, et arriver à la vallée suivante, qui est la vallée du néant, où tout à coup on se trouve devant rien. Tous ces efforts ont conduit à rien. Il faut avoir cette force d'esprit et de cœur de traverser le rien, c'est-à-dire de passer à travers le néant, qui est un mot qui n'a pas de sens par définition, puisque le néant ne représente rien. Comment dire ce qu'est le néant ? Mais il faut pourtant le traverser. Et la dernière des vallées, la plus redoutable, est la vallée de la mort. Il faut même mourir d'une certaine manière avant d'arriver à soi-même. C'est une des grandes... Évidemment, c'est un texte hautement pensé, hautement réfléchi, magnifiquement écrit, bref, qui n'est pas très, très, très long, mais qui, si on commence à le détailler, nous décrit un chemin difficile, ardu, semé de points de comédie. Il y a des scènes carrément de farce dedans, parmi les rencontres au bord du chemin. Mais qui, si on a le courage de le suivre jusqu'au bout, je ne dis pas que je l'ai fait, mais je dis que simplement, l'expérience théâtrale nous a permis en tout cas d'affronter chaque vallée. Que fait un metteur en scène quand il doit représenter le rien ? Comment représenter la traversée du néant ? C'est extrêmement, c'est un véritable défi. Vous voyez. Donc, nous avons tous eu, au niveau de l'écriture, de la mise en scène, de la représentation, à franchir ces étapes-là. Et même aujourd'hui, en vous en parlant longtemps après, je me rends compte à quel point ça a été, malgré la grâce de la direction de Peter Brook, qui sait faire travailler les gens sans leur donner l'impression qu'ils travaillent. Ça a été mon cas pendant longtemps. Il est merveilleusement agréable, mais d'une exigence folle, justement à travers cette souplesse et cette légèreté. Je crois que lui les a franchis, les sept vallées.
Oui, c'est bien dit. Allez-y, Nahal.
Un point linguistique, c'est que Jean-Claude, tout à l'heure, parlait de l'identification, c'est-à-dire les oiseaux, à la fin du voyage, arrivent à eux-mêmes. Je suis iranienne et ce soir, je vais vous dire le secret de Hathor. Lorsqu'on lit la conférence des oiseaux en persan, au début, c'est des milliers d'oiseaux qui vont à la recherche de Simor, l'oiseau roi. Alors, oiseau en persan, c'est Morg. Ils sont des milliers, Hezaron Morg. À la fin du voyage, après qu'un grand nombre de Morg soit mort, soit et renoncé au voyage, et abandonné le voyage, ils arrivent à Simor, à leur roi, et ils sont 30. En persan, c'est si. Ils sont si Morg, 30 oiseaux qui arrivent à eux-mêmes à Simor. Voilà, c'est une
chose, quand on lit Shakespeare, en note, il y a jeu de mots intraduisibles en français.
Non, mais il faut savoir qu'ils sont 30 et ils arrivent à eux-mêmes. Et c'est ça aussi la beauté de la pensée d'Hathor. Et j'ai juste pour dire pourquoi peut-être je suis là. Parce que non seulement je suis iranienne, mais bon, j'ai travaillé sur Rumi longtemps, longuement. Et comme a dit Jean-Claude, Rumi trouvait que Hathor était évidemment son maître. Et il a dit même un poème qui dit que Hathor a parcouru les sept villes de l'amour et que Rumi est au début de la première ruelle. Mais c'est pas vrai, évidemment. C'est peut-être le Tarof, le fameux Tarof iranien. Hathor a une très jolie parabole, très grande parabole mystique des papillons. Et moi, toujours, pour présenter Rumi, j'utilisais cette parabole des papillons. Il y a trois papillons qui vont à la recherche de la nature du feu dans la flamme. Oui, je peux vous la lire. Un jour, les papillons se réunirent, tourmentés par le désir de s'unir à la bougie. Tu peux le lire en français, je le lis en persan peut-être.
Ah, tu as le texte en persan.
Oui.
En luxe. Il est là.
Oui, je vais le...
Un jour, les papillons se réunirent tourmentés par le désir de s'unir à la bougie. Un premier papillon alla jusqu'au château lointain et il aperçut à l'intérieur la lumière d'une bougie. Il revint, raconta ce qu'il avait vu, mais le sage papillon qui présidait la réunion dit que cela ne les avançait guère. Un deuxième papillon alla plus près de la bougie. Il toucha de ses ailes la flamme et la bougie fut victorieuse. Il revint les ailes brûlées et il raconta son voyage. Mais le sage papillon lui dit « Ton explication n'est pas plus exacte. » Alors, un troisième papillon se leva, ivre d'amour. Il s'élança sur ses pattes de derrière et se jeta violemment sur la flamme. Ses membres devinrent rouges comme le feu. Il s'identifia avec la flamme. Alors, le sage papillon, qui avait regardé de loin, dit aux autres, il a appris ce qu'il voulait savoir. Mais lui seul le comprend et voilà tout.
Ma conclusion en ce qui concerne Rumi, c'était que c'est un des rares poètes qui ait touché le feu et qui soit revenu nous raconter la nature du feu. Je crois que Ator, je suis même persuadée qu'il en fait partie, de ces papillons qui sont retournés.
Oui. Alors Nahal, je voudrais juste vous poser une petite question par rapport à Ator. Quelle est la réception de Ator aujourd'hui en Iran? Est-ce que ses livres sont lus, sont enseignés? Est-ce que il y a une espèce d'oubli par rapport à ce patrimoine, je dirais, de soufi en général?
Non, heureusement pas. C'est-à-dire ça, c'est la résistance du peuple iranien qui à chaque fois met la barre un peu au-dessus du niveau du régime. Mais le soufisme n'est pas abandonné, loin de là. Il y a évidemment pour Rumi, je reviens à Rumi, un engouement général, et pour Ator aussi. Moi, j'ai fait des études de chinois et je me rappelle au début, quand je faisais, j'étudiais Paris à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Chaque fois quand j'allais en Iran, on me disait mais Chine, Chine, et j'utilisais toujours la réponse d'Ator Atlabul Elm Valobessin, qui est dans la conférence des oiseaux. Alors je prononce mal en arabe, mais c'est dans la poésie d'Ator. Va chercher la science, même si même en Chine, fut-elle en Chine. Donc c'était ma réponse aux autorités iraniennes qui voulaient pas me prolonger ma bourse d'études, et comme c'était en arabe, ça leur plaisait bien parce qu'ils croyaient que ça vient peut-être du Coran, et ça venait du Coran. Et donc Ator n'est pas du tout oublié en Iran, et d'ailleurs là Jean-Claude ne me contredira pas, c'est que la pièce de Jean-Claude et de Peter Brook est jouée en Iran et dans tous les pays persanophones, en Afghanistan, au Tadjikistan, dans la version de Jean-Claude et de Peter Brook. Mais en Iran, évidemment, il y a toujours le grand spécialiste des études mystiques, Mohammad Reza Shafi Kadkani, qui a travaillé sur Rumi, qui est le grand spécialiste de Rumi actuellement, a fait une édition critique de toutes les œuvres d'Ator, qui vient d'être sortir en coffret, et qui presque, je vous dirais, c'est un best-seller. Comme si aujourd'hui, ici, par exemple, tout d'un coup, à côté de Houellebecq, vous aviez dans le même, les best-sellers des revues, des magazines, des classements de magazines, tout d'un coup, Verlaine. après Houellebecq ou avant. Alors pour nous, c'est un très grand bonheur de voir et d'assister à ce que les œuvres d'Atoche sont lues. Il y a pour les enfants des résumés avec des dessins, une sorte d'adaptation pour les enfants aussi. Et cela échappe tout à fait au régime. C'est vraiment le peuple qui veut et les spécialistes qui sont là à assumer cette soif des Iraniens pour leurs vraies valeurs.
Merci Nahal. On va passer à la musique. Et puis après, on reviendra évidemment avec nos invités pour Nabil Ghannouchi.
Thank you.
Merci Nabil. Nabil, évidemment, a versé depuis son plus jeune âge dans la musique arabe classique. Il a suivi plusieurs formations couronnées par un diplôme en maîtrise et en musicologie. Et donc, il a donné de nombreux concerts un peu partout, dont le dernier, c'était au Festival de musique méditerranée à Bastia. Donc, il reviendra tout à l'heure pour nous jouer d'autres intermèdes. Alors, je me tourne vers Khalid Romo pour faire réagir sur justement cette question de la fusion entre le, d'ailleurs, qui est au cœur même du colloque de la conférence des oiseaux, la fusion entre le moi et l'autre, qui est un thème. Qui a été traité par Attar et par les soufis bien avant qu'il ne devienne un thème de modernité philosophique ou poétique en Occident. Alors, quand l'un est en même temps l'autre, le jeu est un autre, et dans ton travail, tu as relevé justement aussi dans le corpus mystique cette singularité, cette originalité même des soufis dans le traitement du moi comme un autre, du jeu comme un autre.
D'abord, je dois te dire, Marty, que je suis très content d'être ici, parce que je me sens dans mon élément. Pour une fois, on ne fait pas un discours sur l'amour qui est le pivot de cette rencontre, mais plutôt on essaie de le goûter autant que possible ensemble. Et en même temps, je dois dire que ma présence ici est due à un hasard curieux, comme les pétards et l'orage, parce que je ne devais pas être là, je devais être ailleurs. Mais madame a simulé d'être fatiguée ou malade, du coup, Marty.
Vous êtes peut-être ailleurs.
C'est pas possible. Et donc, Marty m'a dit, Khaled, s'il te plaît. Et alors, il a su titiller chez moi une passion que je ne nie pas, que j'assume. J'ai dit oui, surtout à côté de Monsieur Jean-Claude Carrière, dont j'admire l'œuvre. Et quand madame annonce son arrivée, Marthe, elle me dit, bonne nouvelle, elle arrive, j'ai dit, je reste dans le salle. Elle m'a dit, non, tu... Bon. Alors, je voudrais dire deux choses. D'abord, Marthe a parlé des fatwas dites contre Attar, et vous savez très bien que Attar ne fut pas le seul soufi qui encourut le courroux des docteurs. Hallaj, le pauvre, il est allé jusqu'à donner sa vie, il s'est pas rétracté, et bien d'autres. Donc il y a ce danger intérieur à l'islam qui menace le développement et l'expression de la spiritualité. Il y a aussi un danger extérieur à l'islam qui dit que, et les orientalistes, la plupart d'entre eux l'ont dit, il n'y a pas de spiritualité en islam. Le Coran est un livre de loi. Et s'il y a soufisme, mais c'est une branche étrangère à l'islam, ils ont dû apprendre ça aux hindous, ou bien aux chrétiens, ou à la philosophie grecque. Bref, je ne m'attarderai pas là-dessus, je répondrai à la question de Marty, ce serait la meilleure manière. On laisse même les soufis de côté, on laisse même la parole coranique de côté, mais on va interroger la langue arabe elle-même, et qui n'a pas de religion. Ou bien elle se prête à toutes les religions, juives, chrétiennes et musulmanes. Vous serez étonné peut-être quand vous voyagerez la première fois dans l'Orient arabe d'entendre le chrétien chanter « Il y a le mot Allah dans son chant ». Mais il ne peut pas trouver un autre mot pour dire Dieu. Et c'est normal, parce que nous les musulmans en français on dit Dieu. Les juifs aussi chantent, les juifs arabes, il y a le mot Dieu dans leur chant. Donc prenons ce mot déjà. C'est un vocable innocent, neutre. Et je vous invite en 2 minutes à le visiter et peut-être à le goûter. Pourquoi pas ? Ibn Arabi disait, si l'amour est savouré, son essence est indicible. Alors, on nous dit parfois votre Allah. Alors déjà, on escamote le H final qui est aspiré fortement. On dit Allah, on entend le à la fin. Si vous le prononcez bien, vous allez d'abord tomber sur le A d'attaque vocalique. C'est l'ouverture de la bouche, c'est la respiration, c'est un appel d'air. Donc imaginez le nouveau-né qui vient au monde, son premier mouvement, c'est un appel d'air. Donc ça, c'est le A. Donc excusez-moi de dire l'amour que j'ai pour cette langue, qui est ma langue maternelle. Toutes les langues sont admirables. J'aime le français d'un amour infini, mais bon, là, je me permets de dire mon amour pour la langue arabe. Après, vous allez tomber sur le L. Alors, vous dites Al. Et si vous suivez le mouvement de votre langue, elle va s'attacher au palais. Alors, c'est l'attachement. Donc, un appel de vie, un cri vers, et une aspiration, A, aspiration, elle trouve son objet. Elle s'attache à l'objet. Après, il faut relâcher et dire la deuxième syllabe, Allah. Donc, il faut que la langue ose se détacher de son objet d'attachement. Il faut qu'il y ait un mouvement de relâchement. Il faut oser lâcher prise sans craindre de traverser le néant. Et quand vous lâchez prise, vous allez expirer et prononcer le final, mais ce ha va vers l'infini parce que votre bouche reste ouverte. Si vous ne lâchez pas votre langue, si vous ne la détachez pas, vous ne faites que la moitié du chemin. Et à la longue, on risque d'étouffer. C'est là où on est dans l'idolâtrie. L'idolâtrie d'un objet de désir ou d'amour. Il faudrait prendre la distance dont parlait Gibran, cet autre oriental, et donc lâcher prise. Si vous ne le faites pas, l'air qui a servi biologiquement à purifier le sang, il est quasiment empoisonné. Autrement dit, si on se contente d'une certaine consommation amoureuse et on ne va pas au-delà, on s'empoisonne avec ce même amour qui nous a aidés à vivre un instant. Alors c'est ça le mot Allah. Et cela vous explique pourquoi les musulmans de toute ethnie, qu'ils soient persans, turcs, arabes, africains, noirs ou chinois ou américains, dans leur séance de dhikr, ils respirent avec ce mot. Vous voyez, ils inspirent, après ils expirent avec juste le mot Allah. Alors maintenant, est-ce que c'est le propre des soufis de goûter le mot Allah? Non. Parce que tout musulman, toute musulmane sur son chapelet, qu'il soit paysan, ouvrier ou intellectuel, écrivain ou musicien ou artiste, s'il a ce lien amoureux à Dieu, eh bien, il récite le mot d'Allah, il invoque sa présence, il est toujours présent, mais il se rend présent à lui, à force d'appeler son nom. Voilà, j'ai essayé de partager avec vous le sentiment que j'ai de ce mot, et bien sûr, derrière moi, avec moi, en moi, il y a Attar, il y a Rumi, il y a Hallaj, il y a Ibn Arabi, il y a les grandes figures, mais il y a aussi les gens modestes qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué et qui m'ont communiqué cet amour et que vous ne connaissez pas et sur lesquels je ne peux pas écrire des romans.
Merci. Merci Khaled. Jean-Claude, oui, oui.
Un peu ce que vous disiez qui était tout à fait passionnant, de ce Dieu aspiré, aimé et rejeté, si on peut dire, qui est un Dieu intime, un Dieu que l'on pénètre. Nous avons, nous, un Dieu tout à fait extérieur, qui vient du grec thé, avec des dentales, théos, deus, Dieu. C'est un Dieu qui se projette à l'extérieur de lui-même, le créateur, celui qui est, mais à l'intérieur duquel il est très difficile de rentrer, au moins comme vous l'avez si merveilleusement fait.
Avant de revenir à la lecture de quelques textes...
Quand même, nous sommes dans l'amour, restons-y un moment. Quand j'ai travaillé beaucoup avec Nahal, nous avons traduit Rumi, j'ai essayé de mettre 100 poèmes de Rumi en français, ce qui était une lourde, très lourde tâche. Quand on parle de l'amour en Occident et de l'amour, disons, soufi, mystique musulman, et aussi mystique d'ailleurs chrétien, c'est pas le même amour. C'est pas du tout la même chose. Pour nous, l'amour est un sentiment que l'on éprouve à deux personnes et qui, la plupart du temps, comme le dit le proverbe, les amoureux sont seuls au monde, vous isole du monde, vous en protège, fait que vous rentrez dans une bulle où vous partagez 1000 sentiments avec quelqu'un, mais où vous êtes finalement seul. L'amour mystique, soufi, est le contraire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est possédé par l'amour, qu'on a atteint ce stade suprême, le plus élevé possible de l'être, on aime tout. Et on ne peut qu'aimer. On ne peut qu'aimer toutes les créatures. Et non seulement les créatures, non seulement les végétaux, les animaux, mais même les galaxies et les étoiles. C'est-à-dire qu'il devient, à partir de ce moment-là, impossible de ne pas aimer. C'est cet état magnifique que Rumi a si merveilleusement chanté.
Elle fendrait la mystique juive et chrétienne en la personne de Simone Veil, que je suis en train de relire pour la je ne sais pas combien de fois. Et je vous assure, il y a des fois où je suis bouleversé. Je me dis, mais c'est un courant, c'est un deuxième courant, ces paroles sur l'amour. C'est incroyable. Moi, je crois que c'est une expérience intime, universelle. Si le mot grec n'aide pas à la dire, mais en tout cas, le mystique chrétien ou juif la vit profondément. Et finalement, à ce niveau-là, on se rencontre tous et toutes.
Moi, je vais juste ajouter quelque chose. Comme j'ai fait des études de chinois, j'ai longtemps travaillé sur le bouddhisme. Et on peut faire une lecture bouddhique d'Ator. Et ça, c'est tout à l'heure, Jean-Claude parlait de l'union des contraires. Du vide, du néant, de l'identification au miroir et des sept vallées d'Ator. Alors dans le bouddhisme, c'est les 8 chemins corrects, c'est 7+1. Mais vraiment, j'ai longtemps travaillé sur ce thème. Et Ator, qui est né à Neishabur, déjà la position géographique de Khorasan, c'est à l'est de l'Iran et anciennement territoire bouddhique. Donc il y a aussi peut-être une lecture bouddhique du Coran à faire, du Coran.
Voilà.
Lapsus. Pas encore.
Voilà. Ben justement, je voulais vous faire réagir sur cette question, puisque Jean-Claude aussi, il travaille beaucoup sur le bouddhisme. Il a une passion démesurée, je dirais, pour le bouddhisme, et aussi cette
Comme je travaille avec le Dalai Lama, comme vous le savez, je n'ai pas le droit d'être bouddhiste. J'ai demandé un jour au Dalai Lama, est-ce qu'il faut que je devienne bouddhiste? Il m'a dit non. Je lui ai dit pourquoi? Parce que restez ce que vous êtes. Vous êtes dans une certaine tradition. Si cette tradition, même une tradition athée, c'est une tradition. Si elle n'avait aucune valeur, elle ne serait pas une tradition. Elle aurait disparu depuis longtemps. Si elle existe encore, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Simplement, si quelque chose vous manque, si une façon de poser les questions, même pas de donner les réponses, ne vous paraît pas satisfaisante, venez chez nous. Peut-être nous avons posé les mêmes questions d'une autre manière. C'est ça qui est très rassurant et j'allais presque dire confortable dans le contact des bouddhistes, je dirais d'un certain niveau. Parce que là aussi, il y a comme partout des sectes et des fanatiques. Vous voulez qu'on vous lise un autre passage?
Oui, s'il vous plaît, oui.
Alors, on va prendre... Je parlais tout à l'heure de...
Oui, voilà. Donc il va y avoir une double lecture.
Je peux commencer le début de la conférence des oiseaux, si vous voulez. Le début. Un jour, les oiseaux se rassemblèrent. Majmai kardand morgan jahan anche budand ashkara va nahan hotod ashufte dil por intezar در میان جمع آمد بیقرار میگذارم در غم خود روزگار هیچ کس را نیست با من هیچ کار سالها در بحر و بر میگشتم پای اندر ره به سر میگشتم وادی و کوه و بیابان رفتم عالمی در عهد طوفان رفتم پادشاه خیش را دانستم چون روم تنها چون اتوانستم لیک با من گر شما هم ره شوید محرم آن شاه و آن درگه شوید وارهید از ننگ خود بینی خیش تا که از تشویر بیدینی خیش هست ما را پادشاهی بی خلاف در پس کوهی که هست آن کوه قاف نام او سیمرغ سلطان طیور او به ما نزدیک و ما زو دور دور.
Ce qu'elle vient de lire, le voici en français. Un jour, tous les oiseaux du monde, ceux qui sont connus et ceux qui sont inconnus, se réunirent en une grande conférence. Quand ils furent réunis, la huppe, tout émue et pleine d'espérance, arriva et se plaça au milieu d'eux. « Chers oiseaux, je passe mes jours dans l'anxiété. Je ne vois parmi nous que querelles et batailles. Pour une parcelle de territoire, pour quelques grains de blé. Cet état de choses ne peut pas durer. Pendant des années, j'ai traversé le ciel et la terre, j'ai parcouru un espace immense et je sais beaucoup de secrets. Écoutez-moi, nous avons un roi. Il nous faut partir à sa recherche, sinon nous sommes perdus. Un roi, mais nous avons eu beaucoup de rois, qu'avons-nous à faire de notre roi ? Oiseau négligent, attendez. Celui dont je parle est notre roi légitime. Il réside derrière le mont Kaf. Son nom est Simorg. Il est le vrai roi des oiseaux. Il est près de nous et nous en sommes éloignés. Le chemin pour parvenir jusqu'à lui est inconnu. Il faut un cœur de lion pour le suivre. Toute seule, je ne peux pas. Mais ce serait pour moi une honte que de vivre sans y parvenir. Est-on bien sûr que le Simorg existe ? Dit un des oiseaux. Oui, une de ses plumes tomba en Chine au milieu de la nuit et sa réputation remplit le monde entier. Cette trace de son existence est un gage de sa gloire. On a fait un dessin de cette plume. Tous les cœurs portent la trace de ce dessin. Regardez, elle déplie un morceau de soie sur lequel est dessinée une plume. Qu'y a-t-il d'écrit ? Demande la colombe. Partez à ma recherche, serait-ce en Chine ?
Un autre passage, Jean-Claude.
Si vous voulez, pour vous donner un autre ton, je vous parlais tout à l'heure de certains épisodes cocasses, voire comiques. Alors, en voici un. Il est... On finira avec un. Je viens de... Disons celui-là, un deux. Et puis on passera. Il y en a d'autres ensuite. Un jour, du haut du ciel, ils aperçurent une petite tache immobile dans le désert. Ils s'en approchèrent et virent que c'était un ermite. « Oh
oh !»«
Oh
oh !»«
Oh oh !»«
Oh
oh !» C'est un ermite à longue barbe. La huppe lui demande.
« Tu es toujours là ?»«
Toujours. » »«
Et dis-moi, as-tu trouvé la réponse ?»«
La réponse à quoi ?»«
À la question que tu te posais. » »«
Non. » Je n'ai pas trouvé la réponse.
Mais quelle est cette question ?
Oui, oui, dit le moineau, quelle est cette question ? Vous voulez vraiment la connaître ? Il répond de façon très affirmative. Eh bien, écoutez-moi. J'étais, je pense, un homme assez honnête. J'avais une femme et quelques enfants. Depuis quelque temps, j'étais tourmenté par une violente envie d'aubergine. L'envie de manger des aubergines ne me quittait ni le jour ni la nuit. Et en même temps, quelque chose me disait que si je mangeais des aubergines, un malheur allait me frapper. Un terrible malheur. J'essayais de penser à autre chose, à mon travail, à ma famille, à des oranges, à des moutons. Mais toujours l'aubergine revenait. L'aubergine. Finalement, comme vous pensez, mon désir me subjugua. Ma mère me trouva des aubergines. Elle me les fit cuire. Très bien. Et je commençais à les manger. Mais à peine avais-je mangé la moitié d'une aubergine qu'on frappa à la porte. Un homme entra et il posa par terre la tête de mon fils. On venait de couper la tête de mon fils. Alors j'ai décidé que je passerai le reste de ma vie à chercher le rapport qui existe entre le fait de manger des aubergines et la tête coupée de mon fils. J'ai tout abandonné, absolument tout. Je suis venu ici et depuis ce jour, je cherche la réponse à cette question.
Et tu n'as rien trouvé ?
Rien.
En attendant, comment vis-tu dans le désert ?
Je réfléchis, comme vous voyez. Et à ce moment-là, une des colombes, une des oiseaux de la colombe se met à rire. Et l'ermite lui dit, mais pourquoi ris-tu ?
Je ris parce que je sais pourquoi.
Pourquoi quoi ?
Pourquoi tu n'as pas trouvé la réponse ?
Et pourquoi je n'ai pas trouvé la réponse ?
Parce que tu ne penses pas à ta question.
Mais moi, mais je ne pense qu'à ça.
Erreur, tu ne penses qu'à ta barbe.
Tu as raison. Je vois que tu as raison, tu as absolument raison. Écoute, un jour, j'étais ici depuis quelques mois, un an peut-être, quand tout à coup, par terre, j'ai vu quelque chose qui brillait, une pierre qui brillait. Je l'ai ramassée. Tenez, la voici, c'est du mica. En me regardant dans ce mica, je vis que j'avais une barbe magnifique. Alors vite, je ramassais un bout de bois, je le taillais pour en faire un peigne et je me mis à soigner ma barbe, à peigner, à entretenir ma barbe. Et vous avez raison, je ne pensais plus qu'à ma barbe. Avant, je ne pensais qu'à l'aubergine et retiré dans le désert, je ne pensais plus qu'à ma barbe. Toute ma vie était consacrée à ma barbe. Mais c'est fini. Alors il se lève et il commence à arracher sa barbe. Vous allez voir, je vais l'arracher cette sale barbe, cette barbe maudite, je l'arrache, je la jette, le vent l'emporte. Bientôt je n'aurai plus de barbe, plus du tout, plus un poil de barbe. À ce moment la colombe se remet à rire. Et l'ermite lui dit, pourquoi tu ris ?
Pourquoi je ris ? Parce que maintenant encore, tu ne penses qu'à ta barbe.
C'est vrai que c'est très cocasse. Voilà, donc on va écouter à nouveau Nabil Ghannouchi pour un intermède de Oneil. Et puis après, on passera à vos questions, si vous avez quelques questions, si vous avez des interventions à poser à nos invités.
Thank you. Merci. C'était le Ney.
Merci. Merci Nabil. Avant, oui, allez-y. Oui, oui, monsieur. Oui. Je voudrais juste, on va donner lecture donc à un petit texte en persan et puis un autre texte en arabe de Khalid Romo. Voilà. Donc on commence par Nahal.
Tout à l'heure, en écoutant la musique, je pensais à un Rumi qui disait qu'en écoutant ce genre de musique, c'est les portes du paradis qui lui sont ouvertes. Et merci.
Attends, c'est pas tout.
Non, je voulais pas
parce
raconter
que,
toute l'histoire.
On disait pourquoi tu entres en extase, c'est parce que j'entends le bruit des portes du paradis. Et ses disciples lui disaient, mais nous entendons la même musique, mais nous n'entendons pas le même bruit que toi, comment ça se fait? Ils disent, la différence, c'est que moi j'entends les bruits de la porte du paradis quand elle s'ouvre, et vous quand elle se ferme.
Et il n'a pas dit à ses disciples, mais à ceux qui condamnaient la musique, en fait. Alors, en persan... Oui, halaj. Chun chodan halaj bardoron zaman juz analhaq min araftash bar zaban. Chun zaban u hamin ashnaakhtand, char dastu pay u andaakhtand. Zard shud. چون خون بریخت از وی بسی سرخ کی ماند در این حالت کسی زود در مالید آن خورشید راه دست بریده به روی همچو ماه گفت چون گلگونه مرد است خون روی خود گلگونه تر کردم اکنون تا نباشم زرد در چشم کسی سرخ روی باشدم اینجا بسی هر که را من زرد آیم در نظر زن برد که اینجا بترسیدم مگر چون جهانم حلقه میمی بود که چنین جایی مرا بیمی بود
C'était un saint. C'était un saint plus parfait que tout ce qu'on peut dire. Il avait la science et la sagesse en partage. Il était un exemple incomparable pour les hommes et comme un drapeau dans le monde. Au moment où on allait l'exécuter, il ne prononçait que ces mots « Je suis la vérité ». Alors pour le punir, on lui coupa les mains et les pieds. Le sang sortait en abondance de son corps et il pâlit. Alors cet homme se hâta de frotter ses deux mains coupées contre son visage en disant « Comme c'est le sang qui colore le teint de l'homme, je veux m'en servir aujourd'hui pour rendre mon visage vermeil. Je ne veux paraître pâle. » Aux yeux de personne, on pourrait penser que j'ai éprouvé de la crainte. Je veux être rouge. Quand le bourreau se tournera vers moi, il verra qu'il y a là un homme courageux. Le monde n'est que le cadavre du néant. Pourquoi aurais-je peur ?
Alors, je disais tout à l'heure que Khaled était poète. Il anime un ensemble musical, l'ensemble Wajd, et il va nous donner donc lecture d'un petit poème inédit qui va sortir en édition bilingue arabe-français. Voilà.
Est-ce que je peux donner une imprimature à tous les amis, toutes les amies ici présentes, de l'usage du mot Allah, parce qu'il n'appartient pas aux arabophones. Donc s'ils veulent le dire et prier avec... Eh bien, il est à tout le monde. De même que nous prions avec le mot Dieu, vous pouvez prier avec le mot Allah sans changer de religion ni de tradition. Juste un mot pour défendre la réputation et de la mystique chrétienne et juive. Vous savez, et pour compléter ma réponse sur la fusion, le mot attachement, quand la langue colle au palais, c'est l'attachement, on s'attache. le premier verset du Coran qui fut révélé au prophète alors qu'il était dans la caverne et qu'il ne lisait pas de livre, il lisait le livre de son âme, c'est « Lis au nom de ton Seigneur qui créa, il créa l'être humain d'attachement ». Autrement dit, si l'être humain ne s'attache à rien, il n'existe pas. Et voici ce que Simone Veil dit, et que j'ai retrouvé hier. Vous comprenez pourquoi je me dis, il est bon qu'elle reste ce qu'elle était, il ne faut pas en faire une musulmane, parce que c'est très bien ce qu'elle a. Elle dit, on est attaché par une corde à tous les objets d'attachement. Et une corde peut toujours se couper. On est aussi attaché par une corde au Dieu imaginaire, au Dieu pour qui l'amour est aussi attachement. Voilà, là j'ai prouvé ma thèse, donc Jean-Claude. Le poème que je vais vous dire...
Excuse-moi, je voudrais t'interrompre. Par rapport à l'attachement en arabe, il y a différentes traductions. On donne que خلق الله الانسان من علق. Mais علق, c'est un caillou de sang aussi.
Ya Marty, Allah et Khalik, ne fais pas le docteur de loi.
Je ne fais pas, mais c'est une traduction, c'est une interprétation qui est donnée aussi.
Qui est vraie, mais elle n'est pas la seule. Et il y a le vers de poésie تعلق قلبي طفلة عربية.
Ah.
Le verset اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. Alors le poème, il fait partie d'un recueil qui va s'intituler Entre les lignes du temps. Il y a des fois où j'écris en arabe, après j'aurais écrit en français, et des fois où j'écris en français, après j'aurais écrit en arabe. Celui-ci, je l'ai écrit en arabe.
عرضت روحي على الفنا فصرت دمعا ودما حتى عرفت من أنا ثم كتمت الألم مستقرئا أسراره ثم كتمت الألم مستقرئا أسراره كأنني في يدك قيثارة تبوح بالأنغام تارة وتكتم الأنفاس تارة وربما القلب ابتلت فقطعت أوتاره إلى ما وصل وجفا يا من إليه قد هفا في العلون وفي الخفا قلبي وقد صار كما تراه دونك معدما بين أرض وسماء.
Merci. Et alors là, en votre nom, je vais oser demander à Jean-Claude de lire la version française. En une minute, il saura tout.
Une cithare dans tes mains. Tu me mets face au néant, je deviens larme et sang, et assiste à ma naissance. Puis, je tais ma souffrance pour en lire les nuances. Dans tes mains, suis-je une cithare qui se prête à ton art et traduit ta musique, tantôt libre et fluette, tantôt étranglée, muette, et mon cœur né pour la fête, faut-il que tu le tordes à en couper les cordes? Jusqu'où ira ton jeu, tantôt proche, tantôt distant, toi auquel aspire tant à mots voilés ou dévoilés, mon âme, tu en es témoin, épuisé à faire le chemin entre une terre tangible et des cieux inaccessibles.
Merci.
Merci. On a une dizaine de minutes pour faire réagir nos invités. Si vous avez des questions, alors on va prendre 3-4 questions en même temps, comme ça il va y avoir des réponses. Oui, madame.
Merci. D'abord, c'est une séance passionnante où j'apprends beaucoup. Je m'adresse à Jean-Claude Carrière. J'essaie d'imaginer le défi de vous et Peter Brookes pour la mise en scène de cette œuvre. Et je suis très contente que vous avez mentionné Borges, parce que les contes de Borges, et Borges puisé dans les traditions arabes et même plus anciennes, des traditions plus anciennes et plus orientales que cela, et les contes de Borges mettent en scène une épistémologie autre et une cosmologie autre, et parfois démantèlent jusqu'à la structure du sujet. Avec de l'humour, mais c'est très sérieux. Et donc, la question que j'ai, c'est que vous avez un peu parlé des exercices que j'imagine très, très utiles et qui auraient pu vraiment toucher à la métaphysique des gens, à les structures de pensée et tout ça. Mais est-ce que ma question probablement porte sur Attar, parce que j'aimerais savoir si les anecdotes de cette œuvre ont la même fonction que je trouve chez Borges et d'autres écrivains de ce genre. Merci.
C'est-à-dire, notre démarche n'est pas une démarche littéraire, c'est une démarche théâtrale. Il n'a jamais été question pour nous d'adapter Borges au théâtre. J'ai bien connu Borges, longuement parlé avec lui, etc., y compris parler de la conférence des oiseaux, de Attar, qu'il connaissait. Lui, son entreprise est littéraire, hein, c'est-à-dire qu'il nous confie un texte que nous devons lire dans l'intimité, chaque lecteur, refaisant non seulement le chemin de l'auteur, si possible, mais apportant quelque chose de lui-même. Tandis qu'au théâtre, nous sommes devant un public qui n'a pas la possibilité de voir chacun un spectacle différent, comme quand nous lisons un livre. Chacun de nous lit un livre différent puisqu'il y participe. Donc la vérité que nous cherchons au théâtre, c'est une vérité dramatique, tout simplement. Nous ne posons pas de questions métaphysiques. Nous ne posons pas de questions sur la nature de l'univers, etc. Mais nous essayons de toucher directement les gens sans nous abaisser, sans trahir le texte. Il y a et c'est tout, ça c'est déjà beaucoup. Il y a dans un très vieux traité de théâtre indien, le Natyashastra, trois recommandations pour une bonne représentation de théâtre. Je vous les livre. Et c'était quelques jours, quelquefois, pas toujours le cas de la conférence des oiseaux. Une bonne représentation de théâtre doit répondre aux questions des gens dans la salle qui s'interrogent sur l'origine de l'univers, l'origine de l'homme, l'immortalité éventuelle de l'âme, l'au-delà, etc. La pièce doit y répondre. Elle doit aussi répondre, la même pièce, à la partie du public qui s'intéresse à la bonne marche de ses affaires, à la santé de ses enfants, à sa boutique, à toute la vie qu'il doit... Et la même pièce doit offrir une consolation à l'ivrogne qui est rentré par hasard.
Ouais. Une autre question, oui.
En vous écoutant, j'ai cru en nous... exposant le cheminement de ce conte, hein, si j'ai bien compris, j'ai eu l'impression d'avoir de faire que ça correspondait à un voyage plus ou moins initiatique. Et vous m'avez évoqué, enfin, j'ai pensé à Gurdjieff, et en particulier avec le film réalisé par Peter Brook, Les Hommes Remarquables, mais aussi un livre que j'ai lu de Gurdjieff qui était, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûre parce que c'était très difficile, un conte philosophique. C'était le récit à mon petit-fils, je sais...
Récit de Belzébuth à son petit-fils.
Voilà. Alors, voilà ce que je vous transmets. C'est une question, hein.
Il y a, bien entendu, il s'agit d'un voyage initiatique. On peut même dire que la conférence des oiseaux est le type même du voyage initiatique, parce que en plus, contrairement à l'histoire du Graal, on trouve quelque chose à la fin, même si c'est quelque chose, c'est nous-mêmes. Perceval et Lancelot sera à jamais privé de la vue du Graal, vous le savez, dans le cycle arthurien, parce qu'il a commis une faute. Une faute, il a accouché, il est tombé amoureux de la femme d'Arthur. Bon, c'est pas le cas ici. Il n'y a pas de punition de ce genre. Le conte va à son terme, même si ce terme, d'une certaine façon, nous ramène au début. Gurdjieff, c'est tout à fait autre chose, bien que, en tout cas en ce qui concerne un des récits de Belzébuth à son petit-fils et aussi les rencontres avec des hommes remarquables dont Peter a fait ce beau film, il s'agit aussi d'un voyage, mais c'est le voyage qui compte. On ne peut pas dire qu'on arrive à la fin à une vérité éclatante, quelle qu'elle soit. Ce qu'il faut, ce qui est essentiel, il ne faut pas oublier que Gurdjieff était un maître de danse, qu'il a mis au point des ballets, qui avait une représentation. Ce qu'il faut, c'est partir et faire le voyage. C'est ça qui est essentiel. Peu importe ce qu'on va trouver au bout.
Bonsoir. Alors, je prends la parole pour dire trois choses. La première chose, c'est que je suis metteur en scène et je suis en train de monter la conférence des oiseaux. Je travaille dessus depuis un an. Et donc, la première chose que je voudrais dire, c'est d'exprimer ma gratitude pour cette soirée qui a lieu et qu'on a complètement, on a su vraiment par hasard qu'il y avait cette soirée. Et tout ce que vous dites résonne de manière très très forte avec le travail de mise en scène que je fais. Donc, je suis là avec tous les comédiens. Et nous présentons ce travail pour le concours Jeune metteur en scène du Théâtre 13.
Que la huppe se lève.
C'est moi.
C'est vous, hein. Je dois vous dire que parmi les représentations que j'ai vues de la conférence des oiseaux, une était faite par des gens de votre âge, une des plus émouvantes, mais c'était des aveugles, tous. Et c'était extraordinaire, parce que quand un aveugle dit « je vois, as-tu vu, as-tu... » ça devenait quelque chose de tout à fait étonnant. Je vous en prie, continuez.
Donc, la deuxième chose pour laquelle je prends la parole, c'est que je voudrais vous demander si c'est possible que vous nous dédicaciez nos exemplaires de travail.
Avec plaisir.
Et puis la troisième chose, c'est ma question. J'aimerais savoir pourquoi le passage des vallées est très furtif. Voilà, je voudrais savoir comment vous avez accordé la place dans l'écriture à chaque passage, parce que dans le récit initial, c'est vrai que tout est beaucoup plus long et beaucoup plus dense. Comment est-ce que vous avez fait vos choix par rapport aux proportions de chaque passage?
D'abord, on a fait le choix, vous l'avez sûrement remarqué si vous avez lu le texte de Garcin-Tassi, de partir en voyage beaucoup plus tôt. Dans le Garcin-Tassi, il reste assis longtemps à se raconter des histoires. Nous, on a eu envie d'un dynamisme qui commence beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'ai vu une fois une représentation à Périgueux de la conférence des oiseaux où la mise en scène était une salle de classe avec une maîtresse d'école. Vous faites la même chose? Et la huppe était la maîtresse d'école avec une règle. Elle tapait sur la table. Allons les oiseaux, voyons, réveillez-vous, il faut partir.
Qu'est-ce qui a fait cette mise en scène?
À Périgueux, il y a 20 ans.
C'est pas vrai.
Oui. Et je me rappelle même que la huppe avait une jupe écossaise. Vous savez, comme vous voyez, je me rappelle. Elle avait votre
cravate.
Ça va, oui, la cravate. Et la raison pour la brièveté des vallées et que, en fait, dramaturgiquement, il n'y a pas grand-chose dedans. Et Peter voulait se réserver la possibilité de, dans chaque vallée, qu'il y ait une phrase essentielle. Chaque chose que tu rencontres devient ton idole, par exemple, en voici une. Et aussi la possibilité, ce qu'il a fait finalement, d'avoir une espèce de chorégraphie. Quand les oiseaux arrivaient aux vallées, ils n'avaient plus rien d'oiseaux. Ils avaient simplement des costumes très simples, plus de plumes, rien. Rien qui pouvait évoquer les oiseaux. Mais une certaine chorégraphie luttant contre le rien, luttant contre le temps, luttant contre les contraires, était très très habilement faite. Elle n'était pas longue, c'était une chorégraphie qui durait chaque fois 2 minutes, peut-être 3, pas plus. Vous voyez. Mais c'était pour se réserver cette place-là.
Voilà. Voilà. Une dernière question, s'il y a des intervenants.
Écoutez, là, ils peuvent parler quand même, parce que c'est rare de rencontrer...
Absolument, oui.
Ouais, c'est quand même... Ouais.
Vous avez une autre question, mademoiselle?
Est-ce que quelqu'un des comédiens aurait une question à poser? Non?
Il faut sortir la règle.
Oui, je suis vraiment scotchée. Déjà, j'étais très émue de savoir que Peter Brook avait travaillé sur ce texte pour, en tant qu'entraînement avec
pendant
les
des
acteurs.
Années,
Et pour moi, la classe d'école s'est imposée d'emblée parce que déjà, j'ai fait le choix du lieu unique, comme la Huppe, elle dit à la fin, regardez oiseau, nous sommes allés nulle part, nous sommes toujours à la même place.
Ce qui est le cas dans un théâtre.
Tout à fait, tout à fait. Et donc pour moi, ce travail-là est un apprentissage, et nous ne savons pas encore si nous allons la jouer ou pas. Mais pour nous, le travail est vraiment la finalité, quoi. C'est le cheminement et la finalité de ce travail-là.
Ça nous servait d'exercice, comme je l'ai dit, physique et vocaux, et aussi à partir de certaines situations très simples, la princesse et le derviche, par exemple, d'improvisation. Sans se nous référer du tout au texte, on improvisait, et même on improvisait avec le corps et aussi avec la voix. C'est extrêmement utile pour ça.
Bon, alors une dernière question. Il y a micro, hein. Non, il y a micro. Non, parce qu'on enregistre.
Merci, mademoiselle. Si vous permettez, c'est une question adressée au professeur Jean-Claude Carrière. Je fais appel à votre savoir cinématographique, et donc j'ai des lacunes par rapport à Cocteau, l'aigle à deux têtes. Voilà, si vous pouvez nous en dire plus. L'aigle, la huppe, l'hibou, enfin l'aigle à deux têtes.
Si je me rappelle bien, la pièce de Cocteau qui a donné lieu à un film avec Jean Marais et Louis Chevrier, et dans cette pièce, l'aigle à deux têtes représente et l'emblème, le blason de l'Empire autrichien. Ça se passe en Autriche, et où en effet l'emblème de l'Autriche est un aigle à deux têtes, une d'un côté, une de l'autre. Ma connaissance ne va pas au-delà. Est-ce que ce titre a un rapport avec les deux personnages qui, vous le savez, c'est l'histoire d'un jeune terroriste qui vient pour tuer la souveraine et laquelle va s'amouracher de lui et lui d'elle. C'est un peu ça l'histoire. Est-ce que il y a une symbolique de rapprochement de deux têtes qui, dans le blason de l'Empire autrichien, s'opposent et qui, dans la pièce, voudraient se réunir, mais n'y parviennent pas, puisque le terroriste meurt à la fin. Je ne sais pas. Excusez-moi, ma science ne va pas jusque-là.
Oui. Je voudrais vous rappeler, donc, pour jeudi prochain, on a une séance aussi importante que celle de ce soir. C'est sur la bibliothèque d'Alexandrie avec Olivier Poivre d'Arvor, Robert Solé, le docteur Salahdine, ainsi que Bruno Racine. Mais avant de lever cette séance, je vous invite à écouter cette fois-ci, mais d'une oreille très très fine et attentive, les portes du paradis qui s'ouvrent. Cette fois-ci avec un deuxième intermède avec Nabil.
Thank you. Merci. Merci beaucoup.
Et merci à vous. Et puis, vous pouvez venir discuter un petit moment avec Jean-Claude, avec nos invités, avec Khaled. Et donc, à la semaine prochaine.